disait en introduction de sa présidence qu'il aimait bien l'esprit de synthèse et clair de Paul. Moi, je dois vous dire que dans la méditation des écrits de Paul, je suis toujours très impressionné par la profondeur de sa pensée, par la rigueur qu'il s'applique à lui-même. En tant que mathématicien, j'ai une petite idée de ce que c'est que la rigueur. Et je me dis que ce que je suis capable de faire en mathématiques, je ne suis pas forcément capable de le faire dans ma vie spirituelle. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer donc nos méditations sur l'Épître aux Thessaloniciens. Et je voudrais tout d'abord prendre un temps pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous le disons, nous le répétons, mais nous en sommes convaincus, c'est vraiment un privilège que d'avoir cette parole à disposition pour y plonger les regards aussi souvent que nous le souhaitons. Et Seigneur, nous voulons te remettre ces moments pour que tu nous parles. Je veux avoir une pensée pour tous ceux qui parlent en ton nom ce matin aussi, Seigneur, dont je suis, et je te demande de les garder fidèles dans leur service, en ton nom. Amen. Nous continuons donc notre étude de la première épître aux Thessaloniciens, et le passage qui nous intéresse ce matin commence par un « c'est pourquoi ». Donc c'est un peu compliqué de commencer par ça, donc on va commencer par faire un petit rappel des choses qui ont été dites auparavant, et je vous invite à une première lecture dans le livre des Actes au chapitre 17, où Luc nous parle des circonstances qui ont amené Paul à Thessalonique. Actes chapitre 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces hommes ont bouleversé le monde !» Pardon, qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Nous arrêterons là la lecture du livre des Actes. Comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, la prédication de Paul, et plus généralement celle de l'Évangile, provoque des réactions diverses. Certains se laissent convaincre et reçoivent cette parole dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, et sont profondément transformés. D'autres la rejettent, voire la combattent. Et nous commençons une première lecture dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 13 à 16. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Paul est reconnaissant pour trois raisons. Parce que les Thessaloniciens ont reçu son enseignement pour ce qu'il est vraiment, la parole de Dieu. En cela, elle est bien supérieure à toutes les opinions, philosophies, enseignements humains qui ne manquaient pas de circuler à Thessalonique. J'ai essayé de voir un peu où était Thessalonique. Elle est sur une voie romaine, ce qu'ils appellent la voie ignatienne, et c'est donc un axe de circulation important. Donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de courants de pensée qui s'expriment. Et on pourrait se dire, Paul, c'est un prédicateur de plus, quoi. C'est quelqu'un qui vient annoncer quelque chose de nouveau, mais il doit avoir l'habitude d'entendre des choses nouvelles. Eh bien, il y a, parmi ceux qui ont entendu cette parole, des gens qui l'ont reçue, qui l'ont acceptée, et Paul est reconnaissant pour cela. Et je me dis que nous aussi, on doit pouvoir être reconnaissant pour ceux qui acceptent le message de l'Évangile, et ne pas nous laisser décourager par tous ceux qui le rejettent. Parce que Paul, lui, il a connu une opposition, mais il a aussi vu des cœurs qui se sont tournés vers Dieu. Bien qu'ayant à faire face à cette forte opposition, au point qu'il a frôlé la mort, Paul n'oublie pas d'être reconnaissant pour l'œuvre que Dieu fait dans des cœurs. Je me dis que même si nous trouvons que les fruits ne sont pas aussi nombreux que ceux que nous espérons, eh bien il y a des fruits et on peut être reconnaissant pour cela. C'est Bob Souza qui nous avait introduit cette épître et qui avait souligné au verset 3 du chapitre 1 la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance des Thessaloniciens. Voilà les fruits que Paul voit aussi dans cette église. La parole de Dieu agit lorsqu'elle rencontre la foi. Comme ça nous a été rappelé dimanche dernier, Dieu ne s'impose pas. Dieu propose et nous choisissons ou pas de le suivre et de l'accepter. Mais si nous lui donnons notre accord, si nous nous laissons agir en nous, alors son action est diverse et puissante. J'ai trouvé dans ma Bible un commentaire qui liste un peu toutes les actions de la parole de Dieu. Alors quand je dis toutes, je pense que on est loin d'avoir fait le tour, mais vous verrez déjà la liste est longue. Tout d'abord, pour affirmer la supériorité de la parole de Dieu sur celle des hommes, 1 Corinthiens 1, verset 25 nous dit « La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. » Ce n'est pas qu'une parole en l'air, je veux dire, pour nous qui avons à faire face à des contradicteurs. Vous imaginez, comme professeur, je côtoie des philosophes, je veux dire, dans des salles d'épreuves, des choses comme ça, qui nous font de grands raisonnements. Est-ce qu'ils sont conscients que leur sagesse est plus faible que la folie de Dieu? Non, je peux dire que pour beaucoup, ils se considèrent bien au-dessus. On a beau leur dire, on est pris pour un peu des illuminés, mais bon, la réalité est là. La parole de Dieu agit. Ésaïe nous le dit, « La parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. » On touche un peu à ce qui était évoqué tout à l'heure dans la présidence. Dieu fait ce qu'il veut et il accomplit la mission qu'il s'est astreint. Et sa parole est là pour accomplir cette mission. Elle n'est pas là forcément pour nous exaucer, mais pour faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu sauve. Jacques 1, verset 18, dans la version Bible en français courant, « Dieu a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ses créatures. » La parole sanctifie. Jean 17, verset 17, c'est Jésus dans la prière sacerdotale qui parle. « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de ta vérité. Ta parole est la vérité. » 2 Timothée 3, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Ou encore dans le psaume 119 au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole. On aurait pu citer aussi ce verset, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » La parole nous éclaire et nous mène sur le chemin de la sanctification. La parole fait grandir. 1 Pierre 2, verset 2, « Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. » La parole libère. Jean 8, verset 31, « Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La parole nous conseille. Psaume 119, verset 24, « Tes ordres font tous mes plaisirs, ils sont mes meilleurs conseillers. » La parole édifie. Acte 20, verset 32, « Je vous remets à Dieu et au message, d'autres traduisent à la parole, de sa grâce. » Il a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder les biens qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. J'ai trouvé la formulation peut-être un peu ambiguë, il faut bien comprendre le sens. La parole assure le succès spirituel. Ce n'est pas une assurance d'être exaucé qui est proposée là. Mais le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » La parole donne de l'espoir. Psaume 119, verset 147, « Dès avant le jour, je demande ton aide. » J'attends avec espoir ce que tu diras. J'arrêterai ici l'énumération de ce que peut faire la parole dans nos vies. Et s'il y avait un enseignement à en tirer, je crois qu'en une seule phrase, on peut dire « La parole est à consommer sans modération, car elle agit lorsqu'elle rencontre la foi. » La deuxième raison pour laquelle Paul est reconnaissant, c'est la persévérance dans la souffrance. En disant « Vous prenez exemple sur les églises de Judée. » Et je me faisais la réflexion que c'est très important pour Paul d'avoir annoncé tout le message de Christ et pas seulement les choses agréables à entendre. Jésus avait annoncé les persécutions. Dans Jean 15, verset 20, il dit « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus important que son maître. » Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Si Paul n'avait pas annoncé les tribulations, les persécutions, les Thessaloniciens auraient pu penser que le plan de Dieu était mis en échec par ses adversaires et que Dieu n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il annonçait, ce qu'il avait promis, et cela aurait pu ébranler leur foi, semer le doute dans leur esprit. Et je me dis que nous devons nous aussi être honnêtes dans l'annonce de l'Évangile. Bien sûr, l'Évangile sauve, bien sûr, l'Évangile nous aide à avoir une certaine discipline de vie, et en cela, il nous protège de certains excès, de certains écarts. Ce n'est pas pour autant que tout nous est évité, que tout est rose dans la vie d'un chrétien. Il faut être honnête. Dire que si la victoire nous est promise, nous-mêmes, nous ne l'avons pas complètement. Ne pas laisser croire que Dieu a promis que tous nos soucis disparaîtraient. Ne pas laisser croire qu'avec Dieu, c'est la prospérité sur cette terre, c'est l'assurance de ne pas être malade, c'est l'assurance d'être exaucé quand on prie. Pourtant, Jésus a dit, « Mon Père récompensera celui qui me suivra. » Mais il a également dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. Et ça, c'est plus dur de dire aux gens, si vous vous tournez vers Dieu, il ne faudra plus penser à vous-même. Il faudra penser à Dieu. Mais si Paul sait être reconnaissant, il sait aussi mettre en garde contre les ennemis de Dieu et dénoncer leurs mauvaises actions. Et je pense que vous avez été frappés comme moi par la dureté du ton et des propos quand Paul se met à parler des Juifs. Et vous savez comme moi que Paul est juif et qu'il a beaucoup encore d'amour pour ses frères juifs. Même s'il dit qu'ils sont dans l'erreur, il continue à les aimer en disant ils ont du zèle, un zèle amer, et ils se trompent, mais ils ont du zèle pour Dieu. Et pourtant, ces paroles sont très dures. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Et là où Paul insiste sur la gravité du péché des Juifs, il dit « Il nous empêche de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. » C'est grave, ce n'est pas d'être opposé à Paul, pas à la personne de Paul, mais c'est de combattre Dieu dans son plan pour sauver les hommes. On pourrait presque comparer ça à un meurtre avec préméditation ou à non-assistance à personne en danger de mort. Parce que dans l'Épître aux Romains, Paul fait ce constat, tout son péché, le salaire du péché c'est la mort, et dans Éphésiens il dit « vous étiez morts par vos offenses ». Donc empêcher l'annonce de l'Évangile, c'est laisser les gens aller à la mort à laquelle ils sont destinés. Et après avoir dénoncé cela, Paul ne veut pas s'arrêter là-dessus, et il clôt ce passage en disant « mais la colère a fini par les atteindre ». Alors on pourrait s'étonner parce que « a fini », si je me rappelle mes cours de conjugaison, c'est une action qui est terminée, quoi. Hein, c'est un passé composé, c'est dans le passé, c'est fait. Ce n'est pas du tout terminé pour Paul. Hein. Je crois que Paul est tellement certain que la colère divine sévira qu'il parle comme si la chose était déjà réalisée. Guy parlait de potentiel tout à l'heure. Oui, c'est un potentiel, mais pour lui, c'est comme si c'était déjà fait. Et cette question du jugement de Dieu qui semble tarder à venir est souvent un obstacle à la foi de certains. Et dans une méditation que j'avais faite il y a longtemps, j'avais trouvé cette question dans le livre de Malachie, où la question est posée, où est la justice de Dieu ? Beaucoup se la posent, et vous connaissez la réponse, hein, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ceci, il n'y aurait pas tout cela, la justice serait déjà là. Et c'est intéressant de lire la réponse qui est donnée, qui nous remet en place, hein, quelquefois, quand on se pose des questions, non pas que Dieu nous interdise de l'interroger, mais quand même, écoutez, Malachie 2, verset 17, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, vous qui dites, où est la justice de Dieu ?» Vous fatiguez l'Éternel. Je me suis dit que Dieu a dû entendre ça je ne sais combien de fois, et bon, on a été créé à son image, donc peut-être qu'il se fatigue aussi, lui, d'entendre tout le temps les mêmes choses. Je vous propose de lire, dans Malachie 3, au verset 16 et 18, jusqu'à 18, quelle est la réponse de Dieu à ceux qui disent, mais où est le Dieu de la justice ? C'est la réponse de ceux qui sont fidèles à Dieu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez. Voilà une réponse qui ne satisfait pas complètement les gens qui voudraient voir maintenant. Mais nous avons cette assurance, comme Paul, que le jugement de Dieu ne tardera pas, mais qu'il viendra en son temps. Et pour Paul, Dieu a déjà donné la preuve qu'il rendra sa justice en ressuscitant Jésus. C'est la preuve qu'il a exercé son jugement, qu'il ne laisse pas faire, et que le jugement viendra en son temps. Je reprends notre lecture de 1 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Paul veut ici assurer les Thessaloniciens de son amour pour eux. Comme nous l'avons lu, Paul n'a pas pu rester à Thessalonique aussi longtemps qu'il l'aurait souhaité. À Éphèse, on pense qu'il est resté 2-3 ans, à Corinthe, 16-18 mois, et là, il a pu rester que quelques semaines. Et on imagine qu'il n'a pas manqué de mauvaise langue à Thessalonique pour dire « Vous avez vu votre Paul, là, il est parti, hein. Il vous a oublié, il vous a abandonné. Il ne pense plus à vous. » Donc Paul, ici, est un peu contraint de rappeler que ce sont les circonstances qui l'ont obligé à quitter Thessalonique. Mais que de son côté, il espère vivement les revoir et qu'il a déjà à deux reprises formé le projet de les visiter. Et il envoie Timothée pour prendre de leurs nouvelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Paul évoque les empêchements, il dit « Satan nous en a empêchés ». Paul attribue à Satan, et pas aux hommes, pas aux juifs de l'époque, l'origine et la responsabilité de cet empêchement de visiter Thessalonique. Et quand on y pense, cela peut surprendre, mais Dieu laisse Satan agir en certaines circonstances. Rappelez-vous le livre de Job. Rappelez-vous que Christ a été tenté. Et là, je me dis, c'est une réflexion personnelle, mais je pense que Dieu a permis cela parce qu'on a vu clairement qui a gagné. Satan s'y est essayé, il a dû battre en retraite. Satan s'oppose à l'évangile. Souvenez-vous de la parabole du semeur. La semence est à peine lancée qu'il y a des oiseaux qui viennent pour la dérober. Satan tente de séduire. Souvenons-nous du magicien Simon qui faisait des merveilles. Satan attaque les églises. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, les lettres aux sept églises, où il est dit que le diable était à l'œuvre dans les églises de Smyrne, de Pergame, de Philadelphie, de Thyatire. Satan œuvre dans les églises. Ça peut paraître déstabilisant. Tout cela était prévu. Il faut vraiment savoir que Dieu veille, que Dieu reste souverain de toutes choses. J'avais entendu une fois cette image, que Dieu tient Satan au bout d'une chaîne. On trouve quelquefois que la chaîne est un peu longue. Mais n'empêche que Satan ne fait pas ce qu'il veut. Jésus lui-même avait dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » C'était avant le reniement de Pierre. On sait que Pierre a quand même renié Jésus, mais on sait que ça n'a pas arrêté le ministère de Pierre. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Est-ce que vous promèneriez tranquillement rue du président Herriot si vous saviez qu'il y avait un lion en liberté? Mais je crois que nous devons savoir que Satan est à l'œuvre dans ce monde et en tenir compte. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Un commentateur a écrit « Satan a réussi à contrecarrer les deux plans de Paul pour retourner à Thessalonique, mais seulement parce que cela concordait avec les plans de Dieu concernant l'œuvre que Paul devait accomplir. La responsabilité du diable est encore plus grande, car c'est à cause de lui que les Thessaloniciens ont souffert, de même que les premières églises de Judée, bien que Dieu ait permis cette souffrance. » Là, je me dis qu'on ne doit pas se laisser décourager si certains de nos projets, que nous trouvons très spirituels, dont nous sommes convaincus qu'ils vont dans la bonne direction, bien sont contrariés. Paul a persévéré. Ce qu'il n'a pas pu faire lui-même, il a demandé à Timothée de le faire. Et on lit dans ses paroles que ça lui a coûté. Il aurait aimé aller à Thessalonique, mais il a dû rester là où il était. Mais l'essentiel, ce n'était pas que Paul soit content de voir les Thessaloniciens. L'essentiel, c'était que la foi des Thessaloniciens soit affermie, qu'ils demeurent fermes dans leur engagement, et en ce sens-là, Paul a été exaucé. Pas par le biais de ses visites, mais par d'autres biais. Parlant des tribulations, Paul dit « Vous savez que c'est à cela que nous sommes destinés. » Soyons quand même convaincus que Satan n'a pas le pouvoir d'empêcher Dieu. Si nos projets sont contrariés, c'est que Dieu l'a voulu. À nous de nous interroger sur nos motivations profondes et de faire confiance à Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et force est de constater que c'est parfois difficile à accepter. J'avais eu l'occasion de prêcher il y a quelques mois, enfin quelques années peut-être maintenant, sur le livre d'Habacuc, avec ce verset central, « Le juste vivra par la foi ». Quand on pense à l'église de Thessalonique, à toutes les difficultés, cette église a vécu par la foi et Paul est reconnaissant pour la foi des Thessaloniciens. Nous pouvons demander à Dieu dans nos prières d'augmenter notre foi, de nous aider à patienter, à persévérer. Et je me dis que lorsqu'on voit Paul et ses préoccupations pour l'église de Thessalonique, eh bien on a là un modèle. Sans vivre dans la crainte, nous devrions toujours être conscients que l'ennemi guette l'occasion de nous faire chuter, nous ou ceux à qui nous tenons. Soyons donc vigilants, fermes dans la foi, ne laissons pas le doute s'insinuer, vous savez que c'est l'arme préféré de Satan, ça. Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement promis? Est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris? Est-ce que tu es capable de? Ne laissons pas le doute s'insinuer. Soyons vigilants pour nous-mêmes, pour nos enfants, si nous en avons, pour nos proches. Je crois que dans l'Église, nous sommes tous en charge de veiller les uns sur les autres. C'est une parole qui est dite aussi. Rien n'est jamais gagné. Ça, c'est terrible à dire, je veux dire, mais même lorsque tout semble aller bien, même quand on est, enfin, je ne sais pas, nous on a la chance d'avoir des enfants qui ont fait le choix de suivre Dieu, et ma femme dit tout le temps, jamais rien de sûr, c'est pas qu'elle doute de l'engagement de nos enfants, mais il faut continuer à prier pour eux. Bon, et ça c'est une vérité. On a là un exemple avec Paul, qui a fondé cette église, qui a mis un fondement solide, il le dit lui-même, hein. Ce qu'a prêché Paul, c'est du lourd, hein, comme on dit. Eh bien, il est quand même toujours soucieux de suivre, de continuer le travail. Et peut-être avez-vous cru que j'avais oublié deux versets. Au verset 19 et 20, Quelle est en fait notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous imaginez si cette parole vous était adressée et pas aux Thessaloniciens. Vous, la rue sonnera. Vous êtes notre gloire. Ça, c'est celle, ce seraient les fondateurs qui parleraient de ça. Vous êtes notre gloire et notre joie. Je ne sais pas, quand on est enfant, faire la joie de ses parents, ça nous fait du bien. On est content de voir papa et maman contents de notre bulletin, de ceci, de cela. Eh bien, Paul dit à l'église de Thessalonique, vous êtes notre gloire et notre joie. Voilà ce qui motive Paul dans son combat. Et il en faut des raisons solides pour affronter tout ce qu'il affronte. Non seulement le salut des Thessaloniciens, mais la gloire à venir des croyants lors du retour de Christ. Voilà ce qui motive le ministère de Paul. Ceux qui se seront convertis après avoir entendu Paul proclamer l'Évangile seront la preuve de sa fidélité à l'appel qu'il a reçu de Dieu. Cette réponse nous montre à la fois l'amour de Paul pour ses enfants spirituels et aussi la profondeur de sa foi. Parce qu'il faut vraiment avoir la foi pour continuer le combat qu'a mené Paul. Il ne faut pas avoir le moindre doute que ce qu'on fait est utile, qu'il y aura du fruit. Parce que je ne sais pas, imaginez, vous êtes engagé dans un projet, ça fait 20 ans que vous ne voyez aucun fruit. Il y a de quoi être découragé et baisser les bras. Bien, Paul a cette foi que son combat n'est pas vain, et il démontre par là que ce qui lui importe, c'est l'obéissance à Dieu, l'appel qu'il a reçu, et qu'il est convaincu que Dieu a la victoire. Toute cette persévérance de Paul, c'est la preuve de sa foi en une victoire certaine acquise à la croix. Alors, que retiendrons-nous de ce passage ? J'ai essayé de retenir trois pensées. C'est à peu près ce que je suis capable de retenir d'un message en général. La première pensée, c'est que la parole de Dieu agit, aujourd'hui comme hier, dans les cœurs où elle rencontre la foi. Les témoignages de chrétiens persécutés nous le rappellent, même les persécutions les plus violentes ne peuvent empêcher la parole de Dieu de produire son effet. La deuxième pensée, c'est que le diable tente par tous les moyens de s'opposer à l'annonce de l'Évangile. Pour nous, ce ne sont pas des persécutions à la façon de Paul. Ce ne pas des violences. C'est plus sournois. On se laisse endormir. On se laisse distraire. On nous fait croire qu'on parle dans le vide, que personne n'écoute. L'Évangile n'est plus à la mode. Aujourd'hui, un truc qui a 2000 ans. Comment voulez-vous que ce soit d'actualité? Alors que dans les rayons, ce qui fait vendre un produit, c'est nouveau sur l'étiquette. Le diable rôde, et là, il tente de nous endormir. Et puis, troisième pensée, c'est qu'à l'exemple de Paul, il nous faut combattre dans la prière et demander à Dieu de faire de nous toujours des combattants, de ne jamais nous reposer, de ne jamais croire que la victoire est acquise. Elle l'est potentiellement, mais il est sain, il est profitable de continuer à veiller et de mener le combat. Paul dira à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant en cela, en agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. » Je parlais de la discipline, de la rigueur. Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un comble. Paul rejeté, si lui était rejeté, et nous alors? Eh bien, Paul qui a l'assurance d'être sauvé puisqu'il dit qu'il... J'ai oublié de noter le verset, mais qu'il serait beaucoup mieux pour lui d'être auprès de Dieu que d'être encore sur cette terre. Donc, on voit son espérance. Eh bien, dans sa vie de tous les jours, il s'astreint à une discipline pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Et puis, je voudrais quand même terminer par une parole d'encouragement qu'on trouve dans 1 Pierre au chapitre 5. Quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. C'est quand même ça aussi qui fait avancer Paul. Amen.